Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à la Radio du Cinéma. Nous sommes aujourd'hui en compagnie en fait de Joachim Lang, qui est un réalisateur d'origine allemande. Et nous parlons d'un film qui s'appelle donc La Fabrique du Mensonge. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une traductrice, bonjour. Et donc nous allons voir la traduction au fur et à mesure. Vous avez plutôt réalisé des films documentaires jusqu'à présent. Et là, en fait, c'est une nouvelle aventure. En tout cas, c'est un des premiers longs métrages que vous réalisez de fiction, qui mêle quand même un peu le documentaire. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie de vous orienter vers quelque chose de plus fictionnel ?
Ja, bei der Fiktion habe ich natürlich kann ich mehr zum Ausdruck bringen. Deswegen mache ich schon seit über 10 Jahre ausschließlich Fiktion. Es ist Führer und Verführer ist auch ein fiktionaler Film. Es geht nicht darum, dass man Dokumentarfilm plus Fiktion macht, sondern ich bin gezwungen, bei diesem Film Fiktion zu machen, denn die Dokumentaraufnahmen, die wir aus der Zeit des Dritten Reiches haben, sind mit dem Ziel entstanden, über die Wahrheit zu lügen. Alle offiziellen Bilder, die wir haben aus der Zeit, sind über den Schreibtisch von Goebbels gegangen und ich muss diese Bilder zerstören. Ich muss neue Bilder schaffen, die der Wahrheit näher kommen. Und es können nur fiktionale Bilder sein.
Donc, la fiction permet bien sûr de faire des choses qu'on peut plus faire, qu'on peut pas faire avec les documentations. C'est pourquoi depuis plus de 10 ans, je réalise des films de fiction. Et La Fabrique du Mensonge en est un. Ce n'est pas un documentaire avec de la fiction, c'est né d'une contrainte parce que la plupart des documents qu'on possède de l'époque, donc du Troisième Reich, sont des images fabriquées avec l'objectif du mensonge sur la vérité. Il faut savoir que toutes les images documentaires que nous avons du Troisième Reich ont passé par le bureau de Monsieur Goebbels. Donc, il faut les déconstruire, bien sûr.
Alors, juste une précision, évidemment, on parle de ce film, donc La Fabrique du Mensonge. En réalité, c'est un focus très précis sur la vie de Joseph Goebbels. Donc, Monsieur Goebbels, en fait, en réalité, qui c'était par rapport à Adolf Hitler, ben en fait c'était un peu sa matière grise en termes de propagande. Ça a été un peu le ministre de la manipulation. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas vraiment comparer ça à nos époques, mais en tout cas, il y a une influence. Si on peut rattacher ça à un univers comme aujourd'hui, en réalité, ça a été un influenceur XXL pour des petites valeurs, évidemment, puisqu'on parle de crimes de l'humanité, enfin des choses très très graves, de la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu. Mais néanmoins, on peut rapprocher ça de certaines valeurs d'aujourd'hui, des gens qui influencent d'autres gens, à tort ou à raison.
Ja, ich würde sagen, Goebbels war einer der größten, der ersten Demagogen, der ganz früh es geschafft hat, die Menschen zu manipulieren. Mit den Mitteln von damals nehmen wir die Sportpalastrede, eine multimediale Inszenierung, Live-Event, danach Zeitungen, Radio, Film, alles in einem. Und heute haben die Demagogen viel größere Möglichkeiten. Und ich will zeigen, wenn es damals möglich war mit den Mitteln von damals, wie viel leichter haben es heutige Demagogen. Es ist ein Film, der auch die Überschrift trägt, lasst euch nicht verführen. Seid wachsam, schaut kritisch hin. Es ist ein Film gegen Verführung.
Donc Goebbels était le premier grand démagogue des temps modernes. Il a manipulé l'opinion publique comme personne avant lui. Dans le film, vous voyez l'exemple du discours au Palais des Sports.
Ce fameux discours qui a changé un peu les choses, en fait, hein, l'ordre des choses, clairement.
Et on peut regarder ça comme un spectacle multimédia. Vous avez le spectacle live, ensuite la presse, ensuite la radio et le cinéma. Donc avec les moyens de l'époque, il a fait des manipulations incroyables. Et vu ce qu'on pouvait faire à l'époque, on peut bien sûr s'interroger à quel point c'est plus facile aujourd'hui avec les moyens qu'on dispose de séduire l'opinion publique, et on pourrait dire que mon film a un autre titre: Ne vous laissez pas séduire, soyez toujours vigilant.
Ce film, en fait, on vit de l'intérieur cette espèce de premier cercle de gens qui gravitent autour d'Adolf Hitler. Et à la limite, c'est horrible ce que je vais dire, mais je le pense, on s'attache pratiquement à ces personnages, parce que le film, là où on est un peu sur le fil en tout cas, c'est que la partie, les images difficiles à soutenir, ce sont des images qui datent de l'époque. Ce sont des vraies images, ce sont de vrais déportés, etc., etc. Et toute la partie filmique, d'abord je voulais vous témoigner de toute mon admiration sur la qualité des images fictionnelles, en fait. Elles sont extrêmement jolies, la lumière, les cadrages, tout est vraiment absolument soigné. Et du coup, on s'attacherait presque à ces personnes, parce que l'horreur qu'ils étaient capables de prodiguer, en réalité, en fait, on ne l'aperçoit pas dans le film directement dans la partie fictionnelle. Jamais, à aucun moment, le spectateur est interpellé directement par des images insoutenables, fictionnelles.
Naja, zunächst mal sagt die große Historikerin Yael Ben Moshe, die in Israel lehrt und sie eigentlich die Forscherin von Holocaust-Filmen ist, es ist der erste Film, der die Täter mit den Taten zusammenbringt. Wir haben nämlich tatsächlich, wenn wir über den Holocaust und über das Dritte Reich, wir haben entweder Täter- oder Opferfilme. Und bei mir sieht es so aus, dass ich versuche, den Schleier, den wir haben, indem wir normalerweise nur die offiziellen Bilder von Goebbels sehen, den durchzustoßen und hinter den Vorhang zu kommen und zur Wirklichkeit zu kommen. Diese Menschen haben alle den Holocaust verantwortet. Es sind die größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte, aber sie sind nicht direkt damit in Berührung gekommen. Goebbels war einmal in einem Ghetto, er war in keinem Konzentrationslager, Hitler war in keinem Vernichtungslager, er hat sich nur jeden Tag berichten lassen. Deswegen versuche ich, immer die Folgen zu zeigen, und zwar das mit dokumentarischen Aufnahmen, mit Aufnahmen, die nicht geschönt sind, die die Grausamkeit zeigen, nämlich mit Bildern des Holocaust und Zweiten Weltkriegs. Ich nenne das Einbruch der Wirklichkeit in die fiktionale Filmhandlung. Also hier wird der Zuschauer rausgerissen und dann sieht er zum ersten Mal die Folgen. Das finde ich ganz wichtig in der Montage, dass beides zusammen in dieser Form kommt.
L'historienne Yael Ben Moshe, qui fait des recherches sur les films consacrés à Holocaust, a dit de ce film que c'est le film qui, pour la première fois, met ensemble les criminels et les crimes. Parce que dans beaucoup de films, on voit soit les victimes, soit les criminels. Et là, mon objectif était d'ôter le voile que les images de Goebbels ont mis sur cette époque et nous permettre de regarder derrière le rideau et de voir la réalité. On voit les plus grands criminels, les responsables des plus grands crimes de l'humanité. En même temps, ils n'ont jamais été en contact réel avec ce qu'ils ont fait, parce que Goebbels a juste visité un ghetto, il n'a jamais visité un camp de concentration, Hitler non plus, il se faisait juste faire des rapports quotidiens sur ce qui s'y passait. Et on a des images de l'Holocauste qui ne sont pas embellies, et j'appelle ça l'irruption de la réalité dans la fiction, et c'est extrêmement important de travailler avec ce processus.
En fait, le témoignage que porte véritablement Joachim par rapport à ce film, c'est le fait qu'on rentre, qu'on perce l'intimité, c'était ça ma question, on perce véritablement l'intimité de ce premier cercle de gens d'influence, et on voit qu'à l'intérieur, il y a régulièrement des sortes de guerres un peu intestines, parce que tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs au tout départ. Le premier homme qui a été manipulé, c'est Hitler. par Goebbels. Parce qu'en réalité, à la base, il n'est pas dans ses petits souliers. Il l'apprécie, mais ce n'est pas son premier cercle immédiat. Et finalement, il a réussi à le convaincre par ses idées et par sa façon, sa nouvelle façon de convaincre des masses. Et le premier qui a été influencé, c'est Hitler par Goebbels.
Ja, also einmal ist es neu an dem inneren Circle. Wir haben uns dran gewöhnt, normalerweise, wenn Sie vor allem amerikanische, aber auch durchaus deutsche Filme anzuschauen, entweder man geht auf die zweite Befehlsebene und wenn man die erste Befehlsebene zeigt, dann versucht man, sie als Monster und krakelnde Witzfiguren sehr holzschnittartig zu zeigen. Und was in meinem Film ungewohnt und was auch ein Risiko ist, ist, dass man versucht, die als Menschen zu zeigen, dass man versucht, ihnen wirklich nahe zu kommen, dass man sie versteht. Es ist ein großer Vorteil, wenn man das nicht so macht, wenn man sie sehr holzschnittartig und monsterhaft zeigt, dann läuft man nicht Gefahr, dass man sich identifiziert. Aber der große Nachteil ist, dass es einfach falsch ist. Es erklärt nicht, warum so viele Menschen auf sie reingefallen sind. Und das versuche ich zu zeigen, wie war es möglich, dass so viele Menschen auf die reingefallen sind. Und dieses Konstrukt ist ja ungewöhnlich. Man vermutet eher eine andere Gesellschaft, wenn man diese plakative Bilder vom Nationalsozialismus hat, die Goebbels sehr schnittig geschaffen hat. Da trifft man eigentlich auf eine Bande, die untereinander um die Gunst von Hitler, was ungewohnt ist, was ein ganz anderes Herrschaftssystem ist, was zum Beispiel Stalin gehabt hat, der ein sehr Tagesablauf. Beim Hitler war ja das alles informell, er hat es alles am Essen so besprochen. Deswegen gibt es auch oft über entscheidende Dokumente keine Unterschriften. Das war alles. Ich versuche diese Society so zu charakterisieren, wie sie wirklich war. Aber was man manchmal auch als schräge Figuren wie Göring vorkommt, das waren die Täter. Das waren, und das muss man ins Gesicht sehen, so haben die größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte gearbeitet, so haben sie ihre Verbrechen sozusagen am Küchen- oder beim Essentisch die Entscheidungen getroffen, die 60 Millionen Menschen und der Tod gebracht haben und Unheil über die Welt gebracht haben. Es ist ein Porträt dieser Menschen. Warum ich dann den anderen Teil nicht inszeniere, da glaube ich wirklich, da muss man vor den Opfern vom Holocaust Respekt zu haben. Ich hätte mir nicht herausgenommen, die furchtbaren Gräuel des Holocaust nachzustellen. Es ist auch noch selten gelungen, aber in meinem Film, wo ich die Täter sehr intim zeige, wäre es nicht möglich gewesen. Deswegen habe ich mir für den anderen Part auf Dokumentaraufnahmen beschränkt.
Donc la grande nouveauté de mon film par rapport aux représentations américaines et allemandes de cette époque où on choisit souvent des protagonistes qui viennent pas du premier mais du deuxième cercle autour de Hitler. Donc prendre ceux du premier cercle, normalement quand on les a représentés, soit comme des monstres, soit comme des caricatures, un petit peu comme des tableaux. Et moi, je voulais montrer des êtres humains pour qu'on puisse comprendre pourquoi autant de gens les ont suivis. Et ça ne serait pas du tout possible si on ne les montrait pas avec leur côté humain et cette manière qu'on avait avant de les représenter, non seulement donc cette représentation caricaturale, non seulement elle était fausse, et elle ne permettait pas une identification, alors qu'avec ces personnages, comme vous venez de le dire, on peut par moments s'identifier. Et je voulais également faire le portrait d'une société, de cette société de l'époque, de cette bande qui se démène pour avoir les faveurs de Hitler, qui avait un tout autre fonctionnement que par exemple quelqu'un comme Staline. Hitler fonctionnait au jour le jour, beaucoup de décisions étaient prises dans des cadres absolument informels, à table. Et pour beaucoup de documents qui impliquaient des conséquences terribles, il n'y avait pas de signature sur les documents. Et c'était une société dont on a des témoignages. On sait par exemple comment Göring est représenté, un des plus grands criminels, mais il était exactement tel que je le montre. Dans le film, tel qu'on le voit, dans ses conversations à table, et on peut absolument pas comprendre autrement comment ces gens-là, sur un temps de conversation, ont pris des décisions qui ont quand même entraîné la mort de 60 millions de personnes. Et en face d'eux, il y a les victimes. Et je ne pouvais pas, dans un film qui représentait de façon si réaliste les criminels, faire la même chose du côté des victimes. C'était impensable pour moi et mon respect pour les victimes me l'a absolument interdit de faire une représentation à peu près aussi précise que celle que j'ai entrepris des criminels.
Tout à l'heure, en fait, parce que ce film, on pourrait aussi l'intégrer comme en quelque sorte un huis clos, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de personnages. Et finalement, ces personnages, en fait, et vous l'avez justement évoqué, ils ne sont pas dans la réalité factuelle, c'est-à-dire les atrocités qu'ils sont capables d'imposer à leurs troupes armées, en fait, ils ne les voient pas directement. On leur fait des rapports, mais ils ne sont pas confrontés physiquement, d'un point de vue charnel, avec la mort au quotidien. Et ça, dans le film, en fait, on comprend bien la dimension intellectuelle et stratégique. En fait, on est vraiment au cœur du réacteur et on partage l'aspect dimensionnel, l'aspect décisionnel, excusez-moi, de cette deuxième guerre. Et c'est ça, finalement, le fil conducteur du film. C'est qu'en réalité, les massacres, on les vit un peu dans leur propre cerveau, quoi.
Ja, es ist einfach die Wirklichkeit. Wir haben es mit dieser Kommandostruktur zu haben. Kommandostruktur ist vielleicht nicht das falsche Wort. Wir zeigen diesen Innenzirkel. Und ich habe ja tagelang, wochenlang gelesen. Und das wollte ich die Tischprotokolle zum Beispiel gelesen. Da ist immer wieder das Frappierende, dass die über irgendwas diskutieren und dann kommt auf einmal der Holocaust. Und dann reden die wieder über was anderes und dann kommt wieder das. Das war so eine Selbstverständlichkeit beim Essen. Hannah Arendt hat es mal als Banalität des Bösen bezeichnet, dass jederzeit das abgleiten kann. Aber diese Herren haben es alle vermieden, direkt in Kontakt mit den Opfern zu sein, mit dem Krieg manchmal und dann auch in organisierten Truppenparaden. Aber keiner von diesen Herren ist in den Holocaust ins Konzentrationslager gegangen. Und eine Szene, die mir ganz wichtig ist, da versuche ich die Entscheidung zu dem Mord an den Juden zu zeigen, als Himmler Hitler zusammen sitzt, als Himmler mit Hitler zusammen und die zeigen die Fotos. Da war Himmler kurz zuvor in Minsk und hat sich eine Erschießung angeschaut und mit welcher Normalität Hitler, der sagt, wir bringen jetzt auch Frauen und Kinder um, wir bringen sie alle um. Es ist wie bei einem faulen Zahn, den muss man herausziehen. Das sind die Vergleiche, die tatsächlich so gefallen sind. Und damit war für Himmler der Befehl ergangen, diese Dinge auszuführen. So war die Befehlskette.
Donc ce que je montre, c'est exactement la réalité, la structure de ce premier cercle, et j'ai lu énormément de choses pendant très longtemps, entre autres les protocoles de table de Hitler, Et lors de ses entretiens à table, on remarque qu'il parle de n'importe quel sujet, puis il revient à l'Holocauste, puis il retourne à n'importe quel sujet, et tout se passe comme ça sur le ton de la conversation. Et Hannah Arendt a décrit ça dans son livre « La banalité du mal ». Et tous ces gens n'avaient jamais de contact ou presque jamais de contact avec les victimes, très peu de contact avec la guerre, donc parfois seulement, et personne n'est jamais allé visiter un camp de concentration. Et il y a une scène très importante sur laquelle je ne peux qu'insister, c'est un moment où Himmler est à table avec Hitler et ils regardent des photos ensemble. Himmler avait visité Minsk quelque temps auparavant. Il a assisté à une exécution par balle et il a dit, bon, maintenant on tue aussi les enfants et les femmes car c'est comme avec une dent pourrie, il faut l'arracher. Et cette comparaison nous montre comment fonctionnait la structure du pouvoir, comment étaient passés les ordres de façon totalement informelle dans des conversations à table.
Au départ, donc, les enfants et les femmes étaient, entre guillemets, préservés. Et puis finalement, quelqu'un dit comme ça, mais de toute façon, il est hors de question que les enfants continuent à vivre parce que du coup, ils se vengeront sur nos propres enfants. Et donc du coup, je me souviens plus quel est le personnage qui dit cette phrase odieuse, mais ça m'a interpellé.
Ja, es war tatsächlich so. Also wenn man das ganz genau mal anguckt und wir haben ja, wir sind in der Situation, dass wir keinen schriftlichen Befehl vom Hitler zum Holocaust haben. Wir können das genau aber feststellen, wie untereinander die Befehlsstruktur war. Es war tatsächlich so, dass man begonnen hat, die männliche Bevölkerung zu erschießen. Dann hat man festgestellt, und es ist immer Hitler natürlich, der das anführt, hat gesagt, jetzt müssen wir die anderen einbeziehen, aber auch, weil der Krieg letztendlich in der Sowjetunion nicht weitergegangen ist im Sommer 41. Also man hat dann entschieden, jetzt schon die Endlösung zu machen. Es war manches auch noch später geplant, aber dann hat man gesagt, es ist ja auch bezeichnet, im Hitlers Testament gibt es ja zwei Punkte. Es sind, im Grunde genommen hat Hitler zwei Ziele im Leben gehabt. Lebensraum im Osten, das ist der Krieg gegen die Sowjetunion, dass die Deutschen im Osten was haben, und die Ermordung der europäischen Juden. Und eins von beidem hat er geschafft. Als er gesehen hat, dass der Krieg in Stocken gekommen, hat er sich bemüht, das andere, nämlich der Mord an den Juden, und da gehören halt Frauen und Kinder dazu, in der verrückten Rassenideologie, eben wie Sie sagen, dass sie nicht als Rächer später auftreten. Es ist, und es ist ja auch dann in der Posener Rede, das Unglaubliche, als Himmler das sagt, die Posener Rede ist eins der furchtbarsten Dokumente des Holocaust, dass sie gesagt haben, dann kommen auch noch Frauen und Kinder dazu. Aber in dieser ganzen Rede bedauert er nicht irgendwie Mitleid mit den Opfern, sondern die Sicht war, wie schwer haben es meine Männer gehabt und wie heldenhaft war das. Der Blick auf die Opfer war nicht da, sondern nur auf die Täter, was die alles durchgemacht haben und was die alles geleistet haben. Es ist für mich ein unglaubliches Dokument und zeigt diese Denkweise, die diese Menschen hatten.
Donc, il n'y a aucun ordre signé de Hitler pour le Holocauste. Mais on comprend la structure, comment les ordres étaient transmis pour tuer d'abord les hommes. Et ensuite, en 1941, à partir de 1941, quand la guerre en Union soviétique n'avance pas, on se refocalise à nouveau davantage sur les Juifs. Parce que dans son testament, Hitler a laissé les deux objectifs qu'il s'est fixés pour son gouvernement. C'est à la fois de conquérir de l'espace vital à l'Est et d'exterminer les Juifs de l'Europe. Donc au moment où son premier objectif ne peut plus avancer, il se reconcentre à nouveau sur les Juifs, la guerre est arrêtée et on inclut femmes et enfants dans l'extermination des Juifs. Et la chose la plus terrible dans ce discours de Posen, qui est un des documents les plus affreux qu'on a sur le Holocauste, c'est que Himmler parle totalement sans pitié pour les victimes, mais souligne les souffrances de ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont dû endurer pour tuer tous ces gens.
Merci infiniment pour cette interview évidemment extrêmement touchante. Pour terminer, j'aimerais juste vous poser une question un peu plus d'ordre philosophique. Ce film, qu'est-ce qu'il dit de vous personnellement ? Pourquoi avoir choisi un sujet aussi grave et qu'est-ce qui a fabriqué intellectuellement ce projet ? Qu'est-ce que ça dit de vous ?
Für mich ist das ein Lebenswerk. Ich beschäftige mich seit ich 13 war und will dieser Frage nachgehen, warum ist es gelungen, den führenden Nazis diese furchtbaren Verbrechen zu begehen? Wie haben die Menschen dazu gebracht, dass sie ihnen gefolgt sind? Und da will ich eine Antwort darauf geben. Die Antwort ist leider, hat auch mit der Gegenwart zu tun, weil wir in der Gegenwart auch wieder viele Krisen, Populisten und Demagogen sehen. Deswegen wäre mir es lieber, der Film wäre nicht so aktuell. Er ist leider aktuell, aber ich wollte diese Frage für mich beantworten. Ich bin überzeugt, wenn Hitler seinen Demagogen nicht gehabt hätte, wäre es nicht in dieser Form gelungen, diese Verbrechen zu begehen. Es ist Demagogie, Manipulation, Propaganda hat man jetzt früher gesagt, jetzt sagt man Desinformation dazu. Das ist das Gefährliche, es ist Gefährliche der Gegenwart. Und meine Botschaft ist, also die intellektuelle Botschaft, schaut genau hin, passt auf, was euch jetzt mit KI und so haben wir das noch viel mehr. Lasst euch nicht verführen, es ist ein Film gegen Verführung.
Donc c'est l'œuvre de ma vie en quelque sorte, parce que depuis que j'ai 13 ans, j'essaye de répondre à cette question, comment était-ce possible que autant de gens ont soutenu et suivi les nazis pour commettre ces crimes inouïs. Et c'est une tentative d'apporter une réponse. Et surtout d'apporter une réponse à une époque où nous trouvons à nouveau confrontés à des crises populistes, à de la démagogie. Je voulais répondre pour moi-même déjà à cette question. Et je suis sûre que Hitler, sans un démagogue de cette qualité, n'aurait jamais pu faire les choses comme il a pu les faire. Et on parle beaucoup de manipulation dans mon film, c'était l'expression de l'époque. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de désinformation. Et je peux dire que le message de mon film est « Soyez vigilants, regardez de très près ». Et malheureusement aussi, avec l'intelligence artificielle, mon film a une actualité effrayante.
Vielen Dank.
Vielen Dank, merci beaucoup.